Bonjour Immaculate, bonjour Jean-Gilbert, bonjour aux amis, bonjour Natacha, bonjour Indirène, bonjour à la belle-mère. J'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes le mercredi 22 septembre 2021. On est officiellement rendu à l'automne. Déjà l'automne. Ou d'autres vont dire enfin l'automne. Je vous laisse libre du mot à utiliser. Petite erreur dans le message envoyé par l'Église. On va essayer de changer ça. Alors, vous avez une petite, environ 10 minutes pour vous saluer, prendre des nouvelles. Vous êtes 7 à être connectés et je n'ai salué que 4 ou 5 personnes. Donc, il me manque certains d'entre vous. Si vous laissez un message dans la zone commentaire, je pourrai adéquatement vous saluer. Bonjour à mon père, à ma mère. Bonjour France, bonjour Patrick. J'espère que vous allez bien. Alors, on est mercredi, on a deux rendez-vous aujourd'hui. Donc, ce matin avec notre bénédiction matinale et plus tard vers 19h pour notre temps d'études bibliques. Je vous invite à être là, bien entendu, ce soir aussi. Et c'est la première vague de confirmation pour les inscriptions de dimanche. Donc, là encore, on vous rappelle l'importance de vous inscrire pour le culte de dimanche en présentiel. On vous invite à être là avec nous. Pour ce faire, vous nous écrivez un petit message sur courriel ou par courriel plutôt, ou vous nous appelez au numéro de l'Église. Les premières confirmations vont avoir lieu ce soir après l'étude biblique. Dieu la bendiga, hermana Flori et hermano Luis. Bonjour à ma belle-mère. Shalom à vous. Bonjour à Denise et à Gérard. Que Dieu vous bénisse. Donc, on continue notre étude de 1 Pierre 2, du verset 9 à 18 aujourd'hui. On va plutôt s'attacher au verset 12 à 15 pour ce matin. Alors, vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles si vous les avez. Vous pouvez aussi aller vous faire couler un café, un thé. Vous avez encore 7 minutes minimum. Ce matin, pas de café pour moi. Je l'ai bu avant d'arriver à l'église même. Je me suis acheté un petit thermos pour m'amener le café et j'ai vidé avant d'arriver. Donc aujourd'hui, c'est ration à l'eau. Bonjour à ma mère. Shalom, shalom. J'essaie de m'acclimater à cette nouvelle configuration du logiciel qui nous permet de diffuser. C'est pas encore parfait à mes yeux, mais bon, on va s'y faire. Bonjour Sylvie, soyez bénie. Bienvenue parmi nous. Bonjour Guy, sois béni. Alors, 2 journées chaudes aujourd'hui et demain, il va même y avoir le facteur humidex qui va faire qu'on va dépasser les 30 degrés. Puis vendredi, ça chute et là, on va avoisiner le 18 degrés matin et nuit. Mais aujourd'hui et demain, avec l'humidex, on va passer au-dessus du 30. Ce qui est anormal dans cette saison-ci. Donc, est-ce que la connexion se passe bien pour vous? Est-ce que le son est bien? Aujourd'hui, je semble pas avoir de coupure. Donc, juste me faire savoir, me laisser savoir plutôt. Oh, je viens d'avoir une petite coupure. Bonjour Thérèse. Bonjour Rachel. Rachel, bonjour aux sœurs qui sont connectées avec toi. La sœur Mona, la sœur Chantal, la sœur Ocilia. On les salue toutes et chacune. Alors, merci à ma mère pour le feedback. Merci à Sylvie aussi. Pas d'intrus ce matin pour l'instant. En général, ça commence une fois qu'on a débuté l'enseignement Et vous me voyez pitonner sur l'ordinateur pendant que je vous parle. C'est parce que je suis en train d'effacer certains messages. Merci Guy pour le feedback. Bonjour Myriam, bonjour Donald, soyez bénis. Bonjour Lucie, soyez bénie. Encore quelques minutes et on va débuter. Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles dans 1er Pierre au chapitre 2, du verset 9 à 18, et l'emphase va être mise ce matin sur les versets 12, 13 et 12, 13, 14 et 15, donc 12 à 15. Hier, on a déjà eu l'occasion d'étudier les versets 9 à 11. Alors on va prier, puis on va commencer. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes, pour cette autre occasion que nous avons d'étudier ta parole ensemble, de prendre ce temps dans la prière, dans ta présence et dans ce pain de vie que représente ta parole. Alors nous te demandons, Seigneur, ce matin, de rassasier notre âme, d'abreuver notre âme par cette parole que tu as préparée de toute éternité pour nous. Nous prions que nos cœurs soient disposés à recevoir celle-ci, non seulement à la recevoir, mais à la préserver, à la garder, et de surcroît à cela, à agir en conséquence, Seigneur, de la réception de ta parole. Donc bénis ma sœur, bénis mon frère ce matin. Ouvre notre entendement, ouvre notre compréhension. Et qu'en toute chose, que toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le merveilleux, glorieux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors encore une fois, bienvenue à cette bénédiction matinale du mercredi 22 septembre 2021. Cette semaine, on fait suite à l'élection de dimanche, non pas pour parler politique, mais parler quelle doit être l'attitude du chrétien dans cette génération-ci, dans cette société, et par rapport aussi à la chose politique et par rapport aux dirigeants politiques. Pour ce faire, on étudie le passage de 1er Pierre au chapitre 2. Les versets 9 à 18, 1er Pierre 2, 9 à 18. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire l'ensemble du passage, puis je reprendrai les versets 12 à 15 dans la version Louis II, dans la version français courant. Donc la première lecture, qui est le passage au complet de 9 à 18, ce sera fait dans la version Louis II, puis pour avoir une meilleure compréhension des versets 12 à 15, nous irons donc dans la version français courant. La Louis II, cette version est la version la plus usuelle, la plus répandue, dirons-nous plutôt, au niveau de l'Église évangélique. Toutefois, le français courant est peut-être une version plus accessible dans un langage qui est plus contemporain, avec des connotations qui sont plus proches de nous que le langage un peu plus châtié que représente la version Louis II. Donc lisons du verset 9 à 18 dans 1 Pierre au chapitre 2. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font guerre à l'âme. Verset 12, qui est le passage d'aujourd'hui. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Et je relis le verset 12 à 15, maintenant dans la version français courant. Ayez une bonne conduite parmi les païens. Ainsi, même s'ils vous calomnient en vous traitant de malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître le bien que vous faites et de remercier Dieu le jour où il viendra. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité humaine, à l'empereur qui a le pouvoir suprême et au gouverneur envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour louer ceux qui font le bien. En effet, ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les gens ignorants et stupides. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors ce matin, la thématique que je donnerai à notre partage quotidien, bien que la thématique pour l'ensemble de la semaine, ce soit « Craignez Dieu, honorez le roi » ou « Craindre Dieu et honorer le roi ». Hier, on a vu la séparation et la distanciation qu'il doit y avoir entre nous et les choses de cette terre, notamment avec la question politique, avec la question d'appartenance à un groupe privilégié et mettre au plus fort de la balance ou au plus lourd de la balance notre lien avec le royaume de Dieu et non pas notre attachement avec les royaumes de cette terre. Aujourd'hui, on va parler plutôt du témoignage que représentent nos œuvres, du témoignage que représentent en fait nos bonnes œuvres. Mais en contrepartie, si effectivement nos bonnes œuvres donnent un bon témoignage, par conséquent, nos mauvaises œuvres donnent un mauvais témoignage. Et quand on parle de bonnes œuvres ici, c'est des bonnes œuvres qui sont jugées par la société. Des bonnes œuvres qui sont jugées par le roi, par les gouverneurs, tels que les versets nous l'ont dit, par les sujets des rois, donc nos concitoyens. On ne parle pas donc de respecter les commandements de Dieu, mais vraiment de pratiquer des bonnes œuvres telles qu'elles auraient une définition dans cette société laïque et dans cette société éloignée de Dieu. Donc on ne parle pas ici d'œuvres religieuses, on ne parle pas ici d'œuvres axées sur l'aspect spirituel de ces œuvres, mais vraiment la pratique des bonnes œuvres, comme chacun d'entre nous sommes appelés à être de bons citoyens. Reprenons le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. La version français courant nous dit « Ayez une bonne conduite parmi les païens, ainsi même s'ils vous calomnient en vous traitant de malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître le bien que vous faites et de remercier Dieu le jour où il viendra. » La pensée de ce verset nous dit en fait que nos bonnes œuvres et notre bonne conduite sont des instruments pour gagner la confiance du païen. Donc, les bonnes œuvres qu'on pratique, notre bonne vie que nous menons au sein même de cette population, bien sûr, nous sommes des étrangers, bien sûr, nous ne sommes que des voyageurs de passage ici-bas, des pèlerins de passage ici-bas, donc attachés à notre cité céleste et à notre identité comme famille et peuple de Dieu. Mais de surcroît cela, la Bible nous enseigne ici, à travers les cris de Pierre, que nos bonnes œuvres et notre bonne conduite sont les instruments pour gagner la confiance du païen. Ce qu'il nous dit, en fait, c'est que même lorsque les gens sont contre nous, même lorsque les gens seraient prêts à prétendre des faussetés pour nous accuser, lorsqu'ils vont être confrontés à notre pratique des bonnes œuvres, lorsqu'ils vont être confrontés à nos pratiques usuelles de tous les jours, ils vont être obligés de témoigner en notre faveur, comme quoi nous pratiquons de bonnes œuvres, nous pratiquons une bonne vie, même au sein de nos concitoyens qui pourraient être contre nous. Bonnes œuvres, des bonnes, c'est le terme kalos, K-A-L-O-S, bien sûr en grec, qui veut nous dire ce qui est beau, ce qui est excellent, ce qui est approuvé, ce qui est pur. Et je rappelle, ça c'est selon l'approbation et selon le jugement des gens de notre génération et non pas selon le jugement de Dieu. Les bonnes œuvres ne sont pas obligées d'être dichotomiques ou d'être opposées en sens bonne pour Dieu, méchant ou mauvaise pour le monde. Non, il y a des bonnes œuvres que nous pouvons pratiquer qui sont bonnes aux yeux de la population ambiante et de surcroît qui sont bonnes aux yeux de Dieu. Et ce sont de ces œuvres-là, être un bon citoyen, être un conscient des besoins de notre génération et d'y veiller, d'y contribuer, d'y travailler, ça donne un témoignage qui est bon. Donc des bonnes œuvres, ce qui est beau, et ce que notre pratique de tous les jours peut faire en sorte que la population ambiante, la population environnante, soit transportée d'une opposition à une opinion favorable à notre égard parce qu'elle nous voit agir et qu'elle approuve et qu'elle trouve comme excellent ce que nous sommes en train de faire. Conduite, c'est le terme anastrophe, anastrophe qui s'écrit A-N-A-S-T-R-O-P-H-E. Je répète, anastrophe pour ceux qui prennent des notes, A-N-A-S-T-R-O-P-H-E, qui nous parle d'un mode de vie, qui nous parle d'une conduite et d'un comportement. Ça veut donc dire que ce ne sont pas des œuvres qui sont isolées, mais c'est un mode de vie que nous pratiquons, que nous avons. Donc l'ensemble, la généralité de nos œuvres que les gens regardent et pour lesquelles ils apposent un sceau d'approbation. Je vais juste prendre une gorgée. Ça veut donc dire que c'est nos pratiques usuelles. Très souvent, on va être porté à faire des actions ponctuelles, des actions marquantes un jour, mais après ça, être inaperçu durant le restant de la semaine. Pratiquer une bonne œuvre ici, puis après ça, disparaître et revenir quelques mois, quelques années plus tard, pratiquer encore une bonne œuvre, puis disparaître. Le témoignage que nous donnons et le témoignage que les gens rendent de nous ne va pas être axé ou basé sur une action ponctuelle, mais plutôt sur des pratiques régulières, sur des habitudes de vie que les gens vont regarder et desquelles ils vont dire « voilà comment celui-ci est ». Je me rappelle lorsque j'étais à la boxe, lorsque j'allais au gym, je me rappelle que le coach me demandait à l'occasion de boxer avec certaines athlètes, donc des filles. Et bien entendu, dans mon concept, je suis incapable de porter la main sur une fille, même lorsqu'on est dans un ring de boxe en train de s'entraîner. Et je disais donc à mon adversaire, qui était tout simplement une partenaire d'entraînement pour l'occasion, « Regarde, je vais lancer le gant, je vais lancer le poing, mais je vais m'arrêter juste avant de ton visage ou juste avant que ça te touche, je suis incapable de te toucher. » Et il y a une fille qui est devant moi à un moment donné, puis elle me dit « Ouais, ils disent tout ça, comme quoi je dis que je ne vais pas la frapper, mais que finalement, je vais la frapper. » Et mon coach, l'entraîneur lui-même qui dit « Caroline » et j'ai dit son prénom parce qu'elle a été aux Jeux olympiques cette année. Il dit « Caroline, s'il y a une personne qui te dit qu'il ne va pas te toucher et qu'il ne te touchera pas, c'est effectivement le pasteur ou le prêtre. » C'était comme ça qu'il m'appelait, un monsieur d'origine polonaise, et pour lui, c'était pas un mot méchant à mon égard. Le prêtre, il savait que j'étais pasteur. Donc, il disait, regarde, je l'ai eu comme sportif, je l'ai eu comme athlète, et je sais que ce qu'il te dit, c'est ce qu'il va faire. Donc, il avait eu l'occasion de me voir et dire, si Florent dit une chose, il le fera effectivement comme ça. Donc, les gens nous regardent et vont porter un jugement, vont porter une conclusion sur nos comportements, non pas sur une action ponctuelle, mais sur l'ensemble de nos œuvres. Lorsqu'on parle d'œuvre, on parle du terme « ergon », duquel on va trouver le terme « ergonomique », donc être bien disposé, être bien positionné pour le travail. « Ergon » va parler de l'œuvre, du travail, du produit, des actions et des accomplissements. Donc ici, on parle non seulement de la conduite, mais du travail. Les gens regardent ton attitude et les gens regardent ce que tu produis, non pas de façon ponctuelle, mais de façon régulière. Alors, quel est le verdict que les gens peuvent donner à ton égard? Quel est le verdict que les gens vont attester à ton égard? Est-ce qu'ils vont attester effectivement que tu es un bon citoyen? Est-ce qu'ils vont attester de t'avoir éprouvé, de t'avoir regardé sur un certain temps, de t'avoir observé dans ta façon d'être, dans ta façon de vivre, pour par la suite arriver à une conclusion et témoigner à ton égard? Quel sera le témoignage des païens? Quel sera le témoignage de la société à ton égard? L'Église est reconnue, la nôtre, pour avoir fait jusqu'au début de la pandémie, la tablée du quartier. Bien qu'on ne soit pas un organisme reconnu, appuyé par les instances municipales, on nous donnait le droit d'opérer et on pouvait même nous référer des gens puisqu'ils savaient qu'ici, dans cette église, une fois par mois, on leur donne effectivement un bon moment, un bon repas et ce sera agréable. Les gens qui venaient témoigner de nous à l'extérieur sur notre pratique que nous avons eue au-dessus de 15 ans. La pandémie est venue mettre un frein. J'espère que ça va se régler éventuellement et qu'on pourra reprendre. Les gens venaient à la fête qu'on faisait au parc, au Festival pour l'amour des enfants, qu'on a dû arrêter depuis 2 ans encore une fois. Et les gens venaient régulièrement et même venaient nous voir lorsque le mois d'août arrivait en nous demandant « Est-ce que vous allez le faire cette année? C'est quelle date cette année que vous faites cette activité? » Certains même qui n'étaient pas de confession chrétienne, qui n'étaient pas des laïcs, mais qui appartenaient à une autre religion bien officiels et bien marqués de par leurs vêtements, venaient nous voir au parc même en disant « Est-ce qu'on peut vous donner des sous parce qu'on apprécie le travail que vous faites et l'effort que vous fournissez dans le quartier ?» C'est ainsi que la réputation de l'Église se bâtit. J'ai déjà entendu quelqu'un qui posait la question « Si demain matin, votre Église fermait, est-ce que vous serez manqué? Est-ce qu'on s'ennuiera de vous dans le quartier ?» Où on continuera à vivre comme si vous n'avez jamais existé? C'est une bonne question pour l'Église en général, oui, mais c'est une bonne question pour toi et pour moi. Si demain, tu n'es plus à ton travail, est-ce que ton absence va être remarquée, d'une part? Est-ce qu'on va s'ennuyer de toi? Est-ce qu'on va s'ennuyer de ta part que tu apportes au travail, de ton implication? Est-ce qu'on va s'ennuyer de toi comme étant un bon élément qui n'est plus là aujourd'hui? Ou l'opinion que les gens vont avoir, c'est bon débarras. En tant que bon citoyen, l'Église devrait avoir effectivement une marque profonde sur son quartier, sur sa province, dans les bonnes choses, dans les bonnes pratiques. Mais de surcroît à cela, chacun d'entre nous, en tant qu'individu, et en tant que citoyen, nous devrions aussi marquer notre société. Versets 13 et 14. « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » Dans ces mêmes versets, dans la version français courant, versets 13 et 14. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité humaine, à l'empereur qui a le pouvoir suprême et au gouverneur pour envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour louer ceux qui font le bien. Ça veut donc dire ici que le Seigneur nous appelle à être soumis au roi, à l'empereur, dans la version français courant. Si c'était une version encore plus actuelle, adapté à la société québécoise, on nous dirait à la place du roi ou de l'empereur, on nous dirait « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité humaine, au premier ministre et aux représentants de la loi. » On nous dit que nous devons nous soumettre aux autorités et aux lois établies à cause de Christ. C'est très clair ce verset. Soyez soumis à cause du Seigneur. Soyez soumis à cause de Christ. Donc c'est à cause de ma chrétienté que je me conforme aux lois. C'est à cause de ma foi, premièrement, que je me conforme aux lois. Même lorsque ces lois me semblent un peu pénibles, même lorsque ces lois me semblent un peu contraignantes. Être soumis, c'est le terme hypotasso, H-Y-P-O-T-A-S-S-O, hypotasso, H-Y-P-O-T-A-S-S-O, qui veut dire placer sous quelqu'un, être subordonné de quelqu'un ou être sujet de quelqu'un. Ça veut donc dire que lorsque nous ne soumettons pas au roi dans la pensée de Dieu, qui est véhiculée ici par ce verset, c'est comme si, au lieu d'être sujet du roi, nous devenons donc des adversaires du roi. Nous devenons donc des insoumis, des rebelles, des révolutionnaires. Et je comprends qu'il y a des moments, il y a des situations, il y a des cas dans lesquels l'Église doit se lever pour dire « ceci est incorrect ». Mais lorsque les choses sont claires, bibliquement, lorsqu'on s'oppose à l'Église dans le sens de « on vous interdit de prêcher », hier, on a vu, le message principal de l'Église reste non pas les faits sociaux, non pas la justice sociale, mais reste la prédication de l'Évangile. Alors, lorsque la prédication de l'Évangile est brimée officiellement clairement et de façon frontale, l'Église se lève pour dire « Nous allons continuer à prêcher, nous allons continuer à adorer notre Dieu, nous allons continuer à proclamer l'Évangile. » Ce qu'on nous a, si on revient dans un contexte très contemporain, aujourd'hui on ne nous a pas interdit de prêcher l'Évangile, on ne nous a pas interdit de louer notre Dieu, on ne nous a pas interdit de proclamer que tout homme est pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur qui s'appelle Jésus, qui est mort et qui est ressuscité pour l'humanité. On nous a juste demandé, faites-le différemment. Alors aujourd'hui, notre devoir en tant qu'Église est aussi de se soumettre aux autorités et aux lois établies à cause de Christ. Se soumettre au roi et se soumettre aux lois établies à cause de Christ. Sinon, nous sommes des insubordonnés. Nous faisons preuve d'insubordination. Sinon, nous nous déplaçons de l'autorité ou nous nous refusons de nous d'obtempérer à l'autorité et les principes d'autorité ont été établis par Dieu. Toute autorité a été établie par Dieu. Et on ne parle pas de l'homme en tant que tel, mais on parle du principe d'une autorité et d'une soumission à cette autorité. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous soumettre aux autorités. Donc, nous soumettre aux autorités et aux lois, bien sûr, que ces autorités établissent, à moins que ces lois soit de flagrant péché, soit en opposition directe avec la parole de Dieu. Donc, se soumettre aux autorités, les autorités, c'est le terme kictis, K-T-I-S-S-I-S, K-T-I-S-S-I-S, qui veut dire quelque chose qui a été établi, institué, ordonné, qui a été placé, et ça n'a pas été placé par les hommes, ça a été placé par Dieu. Roi Basileus, un leader d'un peuple, un prince, un commandant, et le gouverneur Hégémon, qui représente celui qui gouverne. Donc, non seulement être soumis au roi, mais être soumis aussi au Hégémon, être soumis à ceux qui représentent le roi. Et bien entendu, vous entendrez ici qu'on parle effectivement par des forces constables. Buller, je crois que c'est le terme, des constables de la loi, donc des policiers et des forces de l'ordre. Verset 15, en français, à version Louis II plutôt, « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. » Verset 15 en français courant. « En effet, ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les gens ignorants et stupides. » La volonté de Dieu, le terme thelema, T-H-E-L-E-M-A, donc le désir, le commandement, les préceptes et le plaisir de Dieu. Non seulement c'est un souhait de Dieu que nous soyons soumis aux autorités, mais de surcroît à cela, c'est aussi un commandement de Dieu que nous soyons soumis aux autorités. Et enfin, ça fait plaisir à Dieu que nous nous soumettions aux autorités. Lorsque Dieu voit son Église, lorsque Dieu voit ses enfants se positionner pour être soumis aux autorités, cela honore Dieu. Cela plaît à Dieu, cela dit à Dieu, « Voici, j'ai compris tes ordonnances et je les applique dans ma vie. » Et cela fait plaisir à Dieu. Téléma, être soumis, veut dire ce qui est désiré, ce qui est commandé et ce qui fait plaisir à Dieu. C'est la volonté de Dieu que vous pratiquiez le bien. Pratiquez le bien, le terme agatopoieo. Agatopoieo, qui s'écrit A-G-A-T-H-O-P-O-I-E-O. Je répète, A-G-A-T-H-O-P-O-I-E-O. Agatopoieo. Un poieo, qui veut dire faire ce qui profite à autrui. Faire ce qui profite à autrui. Ici, on est en train de dire pratiquer le bien n'est pas pour nous-mêmes. Pratiquer le bien, c'est pour autrui. Ceux qui en bénéficient, ce n'est pas nous-mêmes. Ça veut donc dire que parfois, je vais être appelé à faire le bien et ce bien que je pratique ne me profite pas à moi, mais profite l'ensemble de la population. Il y a certaines choses que nous faisons et ce n'est pas parce que ça nous favorise. Donc, quand on se soumet actuellement en tant qu'Église à obtempérer aux règles sanitaires, à obtempérer dans nos lieux de culte au port du masque, à obtempérer dans nos lieux de culte à une distanciation appropriée, adéquate, ces choses-là ne nous réjouissent pas. Ces choses-là ne nous sont pas profitables. On préférait effectivement ne pas porter de masque. On préférait effectivement pouvoir se faire la collade. On préférait effectivement pouvoir se rassembler avec un plus grand nombre, sans tenue de registre, sans prendre la température, sans requérir telle ou telle norme dans nos réunions. Mais nous faisons cela. Pourquoi? Parce que c'est profitable pour d'autres, parce que c'est agréable à d'autres, parce que ça fait du bien à la société, et ce faisant, je suis trouvé acceptable par ceux qui me regardent au loin. Lorsqu'il y a eu des cas de COVID qui se sont avérés au sein de la congrégation, on a même pris les devants sur la santé publique, où on les a appelés, et on leur a demandé, voici, on a été en contact dans notre assemblée, une personne était déclarée positive et nous, on vient se faire tester. Et la santé publique disait à ce moment-là, mais vous êtes plus rapide que nous. C'était un bon témoignage en tant qu'Église auprès de la santé publique du fait que nos normes étaient sévères, du fait que nos normes étaient bien en place et du fait qu'on prenait de l'avance et on ne se laissait pas rattraper par les situations environnantes. Donc, on a servi de bons témoignages à la société. Lorsqu'on dit depuis la tribune, il vous faut aller voter, on est en train de dire à la congrégation, il vous faut être de bons citoyens. Et un bon citoyen est aussi un citoyen actif lors d'une élection, lors d'un scrutin. Pour pratiquer le bien qui va faire taire les critiques qui sont contre nous ou contre son royaume. L'idée de Dieu ici, c'est que foncièrement, le diable va lancer de fausses annonces à ton égard. Que foncièrement, le diable va lancer de fausses informations concernant l'Église. Mais lorsqu'on pratique le bien, lorsque nous faisons preuve d'être de bons citoyens auprès de nos contemporains, on est en train de faire taire ces critiques-là. Un peu comme le coach qui disait à Caroline, « Regarde, si Florent te dit qu'il ne va pas te toucher, il ne te touchera pas. Si Florent dit que le gant de boxe ne va faire qu'effleurer ton visage, sois sûr que Florent va se garder assez loin pour que même dans notre entraînement, le point n'arrive pas jusqu'à toi. » C'était parce qu'il m'avait vu, parce qu'il m'avait connu et qu'ainsi il pouvait donner un témoignage à notre égard. C'en est de même pour notre implication dans la société. Il faut que nos contemporains donnent un bon témoignage à notre égard. Voici, ils ont été capables d'opérer. J'ai quelqu'un qui n'est même pas chrétien, qui assiste régulièrement à nos rassemblements sur Internet et qui me dit, Florent, c'est bien ce que tu fais. C'est bien que tu sois tous les matins devant ta caméra. Ça fait du bien aux gens. Et cette personne n'est pas chrétienne. Cette personne n'est même pas déjà venue à l'Église. On l'évangélise, on lui parle de Jésus, mais il n'a pas encore pris de décision à l'égard de Jésus. Mais il dit malgré tout, Florent, ce que tu fais, c'est bien. Ça fait du bien à nos gens. Continue, ne lâche pas. C'est bon ce que tu leur dis. Je crois qu'il est important que pour nous tous, on puisse avoir cette attitude. Priez le Seigneur et demander, Seigneur, comment je peux être un bon citoyen tout en respectant ta parole? Seigneur, comment je peux donner un bon témoignage au roi, au gouverneur, au premier ministre, mais de même qu'aux autorités qu'il a instituées? Comment je peux être un bon témoignage auprès de chacun des paliers de ces gens qui applique la loi. Comment ils peuvent me regarder en disant « voici quelqu'un de vrai et voici quelqu'un qui est un bon citoyen ». Comment faire pour que le témoignage si souvent négatif qu'on va lancer contre l'Église soit réduit au silence à cause des œuvres que nous posons, bonnes œuvres que nous posons. Quelle est la pratique d'une vie qui fait en sorte que les mensonges et les critiques qui sont lancées contre nous sont rendues muettes et sont rendues silencieuses à cause de notre bonne pratique, de notre bonne conduite, de notre bonne vie. Voilà le défi pour toi, voilà le défi pour moi ce matin. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce défi que nous avons encore aujourd'hui d'être de bons citoyens et de marquer notre génération, de marquer même cette époque-ci. Montre-nous, Seigneur, comment être effectivement un bon citoyen qui renvoie au silence les critiques, les mensonges qui sont proférés contre nous, contre ton Église, qui sont rendus au silence parce que nous avons une bonne pratique, parce que nous menons une bonne vie, parce que nous sommes de bons exemples auprès de nos concitoyens, de nos contemporains. Je prie pour ma sœur que dans sa façon d'obtempérer aux lois, d'appliquer effectivement une vie qui respecte les lois, qu'elle puisse ainsi servir de bon témoignage auprès de ceux qui la regardent, qui l'observent et qui prennent, Seigneur, sa vie comme un exemple de ce qu'est un chrétien. Alors, je prie que ma sœur, dans son témoignage, dans ses pratiques, dans sa vie, soit effectivement une bonne citoyenne. Je prie qu'il en soit de même pour mon frère, que dans ses pratiques, dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir, il incite les gens autour d'eux, du regard qu'il porte sur eux, ou que ces gens portent sur lui, qu'ils soient incités à suivre le modèle que mon frère est. Et lorsque tu regardes cela, Seigneur, que non seulement les gens soient heureux de nous avoir comme concitoyens, puissent féliciter les œuvres et les actions des uns et des autres, mais de surcroît cela, que toi, Seigneur, tu sois honoré. Par notre respect des autorités, par notre respect des lois, par notre implication dans cette société et par l'exemple que nous donnons à tout un chacun. Bénis ma sœur, bénis mon frère ce matin. Sois avec nous. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Demain, on continue toujours dans cette semaine de thématique craindre Dieu et honorer le roi. On vous rappelle les inscriptions pour l'assemblée de dimanche en présentiel. Vous nous écrivez un courriel à l'adresse courriel de l'Église que vous connaissez ou vous nous appelez au numéro de l'Église et vous laissez un message sur la boîte vocale. Toute personne accompagnée, tout enfant en fait accompagné de 6 ans et plus peut être présent parmi nous. Bien sûr, lorsque vous nous écrivez ou vous nous appelez, vous nous donnez le nom de toute personne qui vous accompagnera, qui sera avec vous pour l'assemblée de ce dimanche. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée et puis on se retrouve ce soir, 19h, pour l'étude biblique. Au revoir tout le monde, bonne journée.